VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir l'Afrique, Morgane Guiriec au micro pour ce bulletin d'information. En Centrafrique, le tribunal correctionnel de Bangui a condamné ce matin à 2 ans de prison ferme le ministre du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat pour le viol d'une mineure de 16 ans le 25 janvier dernier. Le crime a été perpétré lors d'une mission à Yaloké, dans l'ouest du pays. Romaric Vomitiadé écope par ailleurs de 300 000 francs CFA d'amende et de 2 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Félix Epassi-Zembrou a recueilli la réaction de l'un de ses avocats, maître Jean-Louis Opalignan.
Je constate que c'est une parodie de procès. La décision ne correspond même pas aux faits. On ne peut pas tirer argument de ce que des habits ont été exhibés à l'audience pour condamner quelqu'un. En plus, un ministre encore en fonction par le tribunal de grande instance a une condamnation ferme. Le juge disqualifie les infractions de pédophilie et d'atteinte à la liberté, à la promotion et au développement de la jeune fille, mais ne dit pas quelle est l'infraction envers laquelle il les réqualifie. Il s'arrête seulement à disqualifier et il va dans l'attentat à la pudeur consommée avec violence, alors qu'il n'y a pas eu de consommation.
Maître, selon vous, les chefs d'accusation retenus dans cette affaire ne sont donc pas avérés?
Non, il s'agit d'un complot dont les sources sont diverses. Il y a d'abord le camp duquel il est sorti pour être ministre. Il y a en plus son département ministériel. Il y a enfin ses collègues membres du gouvernement qui ne veulent plus de lui parce qu'il est tombé sur un dossier compromettant à l'égard d'un ministre conseiller à la présidence.
Maître Jean-Louis Opalignan, avocat de Romaric Vomitiadé, condamné, rappelons-le, à 2 ans de prison pour viol sur mineur. Centrafrique toujours, le président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, Michel Amine, a été arrêté pour possession de faux documents de voyage hier à l'aéroport de Bangui. En possession de 3 passeports centrafricains, camerounais et afghans, il a été remis au parquet. Et le Rwanda s'est félicité de la déclassification par Paris des archives de la présidence française sur le Rwanda de 1990 à 1995. Non, sans rester toutefois prudent sur la portée de la décision. Les précisions d'Eddy Isango.
La mesure prise mardi pourrait permettre un éclairage sur le rôle de la France au Rwanda pendant les génocides. Bien que certaines critiques avancent que les archives de la présidence française ne sont pas les plus sensibles, le ministre rwandais de la Justice, Johnston Businge, a salué la décision de Paris tout en soulignant que le Rwanda s'attend à une déclassification totale, rapporte l'AFP. L'ancien secrétaire général de la Commission nationale de la lutte contre les génocides, Jean de Dieu Moussio, aujourd'hui président de la commission Moussio, ayant publié en 2008 un rapport sur le rôle de la France, a abondé dans le même sens. Les rapports Moussio accusaient la France d'avoir participé activement à la préparation du génocide et ses soldats d'avoir pris part à des massacres et à des viols. Des documents déclassifiés par l'Élysée vont être mis à la disposition des associations de la société civile et Paris a promis que les archives parlementaires et des ministères des Affaires étrangères et de la Défense seront également déclassifiés, mais à des dates inconnues à ce jour.
N'Djamena, les enseignants du primaire et secondaire ont déclenché une grève ce mardi pour dénoncer les retards de paiement de leur salaire. Nathalie Barge.
Les écoles et lycées publics sont fermés depuis mardi matin, a déclaré Blaise Djimtoïdé, secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad, cité par l'AFP. Monsieur Djimtoïdé précise que les enseignants ont systématiquement des retards de paiement de leur salaire de 10 à 15 jours depuis 8 mois. Nous demandons au gouvernement de prendre des dispositions pour verser nos salaires à temps, a déclaré le syndicaliste, ajoutant que la grève deviendra automatique si les salaires du mois dernier ne sont pas réglés cette semaine. La société civile et l'opposition demandent régulièrement au gouvernement de consacrer les bénéfices pétroliers à l'amélioration des conditions de vie de la population, encore majoritairement très pauvre au Tchad, un pays figurant parmi les 10 derniers au monde dans le classement de l'indice de développement humain de l'ONU. Le Tchad enregistre actuellement une baisse de ses recettes à cause de la chute des cours du brut. N'Djamena a investi l'argent des revenus pétroliers, surtout pour la modernisation de l'armée, le réseau routier et la construction de bâtiments publics, sans pour autant améliorer la qualité de vie des chômeurs et travailleurs tchadiens qui sont nombreux à vivre dans le plus grand dénuement.
Au Burkina Faso, la grève générale contre la vie chère a été faiblement suivie à Ouagadougou. D'après l'AFP, la plupart des entreprises et services publics sont restés ouverts. Seule l'université de Ouagadougou et les établissements scolaires sont restés fermés. Les syndicats et des associations de la société civile exigent la réduction du prix du carburant et des biens de première nécessité, ainsi qu'une augmentation des salaires. En Côte d'Ivoire, affrontement au palais de justice d'Abidjan entre des policiers et des membre du Front populaire ivoirien, le parti politique de l'ex-président Laurent Gbagbo. Les manifestantes étaient venues soutenir Marie-Odette Lorougnon, responsable des femmes du FPI, arrêtée la semaine dernière, puis déférée hier devant le parquet.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Un jury du Massachusetts, dans le nord-est des États-Unis, a rendu ce mercredi un verdict de culpabilité contre Zohar Tsarnaev, l'unique accusé dans le double attentat du 15 avril 2013 à Boston. Ces explosions, lors du fameux marathon, avaient fait 3 morts et plus de 260 blessés. Le jeune Tchétchène, devenu citoyen américain, a été trouvé coupable de tous les 30 chefs d'accusation, dont 17 prévoit la condamnation à mort. La peine sera déterminée dans une autre phase du procès. Il s'agira pour la défense de tout faire pour convaincre la cour d'épargner la vie de Tsarnaev et lui donner la prison à vie. Au 14e jour de l'intervention militaire saoudienne au Yémen, Washington accélère des livraisons d'armes et ses alliés du Golfe. De son côté, Téhéran vient d'envoyer 2 de ses vaisseaux de guerre dans les eaux du Yémen. Salwa Jafari.
Le destroyer aux couleurs de la révolution iranienne accompagné d'un autre navire sont déjà en route vers les eaux du Yémen. Une manœuvre que Téhéran dit faisant partie de ses efforts anti-piratage pour protéger ses routes navales. Pour beaucoup, ce mouvement est loin d'être innocent. Il est même très dangereux dans ce contexte de guerre, surtout que les États-Unis viennent de leur côté d'accélérer les livraisons d'armes à leurs alliés du Golfe. Écoutez le chef du Pentagone, Ashton Carter, lors d'une conférence de presse.
Nous leur procurons des informations de surveillance, de reconnaissance, pour les aider dans leur campagne, de l'assistance logistique. Nous allons les réapprovisionner en équipement et en munitions.
Ainsi que du matériel médical. Il faut dire que la situation sur le terrain est catastrophique selon les Nations Unies et autres organisations non gouvernementales. 11 personnes au moins ont été tuées aujourd'hui à Aden, la grande ville portuaire du Sud. Les affrontements ont eu lieu entre rebelles chiites et partisans du président Abdelrabou Mansour Hadi, soutenus par l'Arabie. Des cadavres étaient même visibles dans les rues. La population civile est piégée et les aides humanitaires ont du mal à être acheminées. Le comité international de la Croix-Rouge a lancé un appel à une trêve humanitaire de 24 heures pour pouvoir apporter un soutien médical à la population.
L'Union européenne a de nouveau approuvé des sanctions contre une banque et 32 sociétés d'expédition iraniennes, environ 3 mois après le rejet de telles mesures par un tribunal européen. Cette décision intervient quelques jours seulement après l'accord politique sur le nucléaire iranien, accord négocié par Téhéran avec l'Allemagne et les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Union européenne s'appuie sur des bases légales différentes pour la réimposition des sanctions contre la banque Tejarat et 32 entreprises en question, accusées d'offrir un appui significatif au gouvernement iranien en violation des dispositions internationales. La Grèce prend position contre les sanctions occidentales imposées à la Russie en rapport avec le rôle de Moscou dans le conflit ukrainien. En voyage dans la capitale russe, le Premier ministre grec Alexis Tsipras a appelé ce mercredi, aux côtés du président russe Vladimir Poutine, à abandonner le cercle vicieux des sanctions prises par l'Union européenne à l'encontre de Moscou. C'est ce qu'indique l'AFP. Voilà pour ce journal. Prochain bulletin dans une heure au micro Morgane Guiriec. Soyez au cœur de